et passion montagne. Soyez les bienvenus, bonjour à toutes, bonjour à tous en ce dimanche 21 novembre et bonjour à vous Jean-Michel Asselin.
Bonjour Christophe Chardon et bonjour à tous les amis montagnards.
Oui, une nouvelle émission où nous allons parler alors pêle-mêle du salon de l'escalade à Lyon du 26 au 28 novembre. On va accueillir dans un instant Eric Attès qui est le directeur, l'organisateur, où on va parler de piolet d'or remis à Simon Welfringer et Pierrick Finn. Ce sera du côté de Briançon entre le 26 et le 29 novembre. On va parler également avec Mathias Virilli de Montagne Magazine, eh bien, du lourd bilan de morts en avalanche la saison passée en France et pourquoi il est important de se former, d'avoir un DVA. Jean-Michel, vous nous donnerez un bon conseil montagne également. Aujourd'hui, la saturation en oxygène, comment la mesurer et à quoi ça sert. Et puis le coup de fil. De plus, nous le passerons à une femme aux multiples casquettes, Valérie Maumont, musher depuis 15 ans. Elle a 14 chiens, mais aussi chef d'entreprise en Isère. Voilà le programme de ce Passion Montagne aujourd'hui. Dans un instant, direction Lyon et le salon d'escalade. Ça se passe après Florent Pagny et Un jour, une femme.
Passion Montagne, Christophe Chardon, Jean-Michel Asselin.
France Bleu.
D'avoir passé les nuits blanches à rêver ce que les contes de fées vous laissent imaginer. D'avoir perdu son enfance dans la rue, des illusions déçues, passer inaperçues. D'être tombé plus bas que la poussière, et à la terre entière, en vouloir puis se taire. D'avoir laissé jusqu'à sa dignité, sans plus rien demander, qu'on vienne vous achever. Et un jour une femme, dont le regard vous frôle, vous porte sur ses épaules, comme elle porte le monde, et jusqu'à bout de force, recouvre de son écorce aux plaies les plus profondes. Puis un jour une femme met sa main dans la vôtre pour vous parler d'un autre, parce qu'elle porte le monde jusqu'au bout d'elle-même. Vous prouve qu'elle vous aime par l'amour qu'elle inonde. Jour après jour vous redonne confiance de toute sa patience, vous remet debout. Trouver en soi un avenir peut-être, et surtout l'envie d'être ce qu'elle attend de vous. Et un jour une femme dont le regard vous prône vous porte sur ses épaules comme elle porte le monde, et jusqu'à bout de force recouvre de son écorce pour plaire les plus profonds, pour plaire les plus profonds. Et un jour cette femme met sa main dans la vôtre pour vous parler d'un autre, parce qu'elle porte le monde, et jusqu'au bout d'elle-même vous prouve qu'elle vous aime par l'amour qu'elle inonde. L'amour qu'elle inonde. Et un jour cette femme dont le regard vous touche porte jusqu'à sa bouche le front d'un petit monde, et jusqu'au bout de soi lui donne tout ce qu'elle a, chaque pas, chaque seconde,
Et un jour, une femme, c'était Florent Pagny sur France Bleu dans Passion Montagne. Avant de recevoir le futur Piolet d'or, Simon Velfringer, je vous l'ai dit, on va du côté de Lyon avec le salon de l'escalade qui aura lieu du 26 au 28 novembre dans quelques jours. Éric Attès, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Directeur, organisateur. Qu'est-ce que vous nous réservez durant ces trois journées du côté de Lyon? Le monde de l'escalade se retrouve avec des conférences, des exposants à l'appel et beaucoup d'animation, c'est ça?
Effectivement, alors le salon de l'escalade, c'est l'unique rassemblement événementiel sur la thématique au sens plus large finalement de la verticalité en France. L'événement va regrouper pendant trois jours tous les acteurs de la filière, en tout cas toutes les catégories de la filière. Et c'est un événement mixte qui va accueillir sur deux volets distincts les professionnels d'abord le vendredi et le samedi matin et le grand public du samedi midi au dimanche soir.
Alors, qui dit grand public dit quelques vedettes. On attend, j'imagine, des grimpeurs d'exception, Seb Bouin et d'autres.
Effectivement, alors toutes ces infos sont à retrouver sur notre site. On continue de les actualiser au fil des informations qui nous arrivent de nos exposants qui essayent de faire venir effectivement leurs athlètes et tout un tas de personnages un peu clés du monde de l'escalade. Alors pas que des athlètes d'ailleurs, aussi des auteurs, aussi des contributeurs, des personnes qui œuvrent pour le développement de l'escalade. Enfin voilà, il y a une vraie diversité sur les personnalités présentes.
Vous attendez à peu près combien de public?
Alors, ce que je peux vous donner, c'est les chiffres de 2019.
Oui.
2019, c'était notre première édition. On avait fait plus de 4500 visiteurs. On avait une centaine d'exposants. Cette année, on a plus de 40% d'exposants en plus, puisqu'on a dépassé la barre des 140 exposants. Voilà, c'est difficile de dire quelle sera la fréquentation, mais en tout cas, on a
beaucoup plus
de monde. Voilà.
Oui, est-ce qu'on pourra faire un peu d'escalade?
Alors, on pourra faire beaucoup d'escalade. On pourra découvrir l'escalade si on est très jeune public ou débutant. On pourra tester du matériel sur des structures d'escalade. D'ailleurs, aussi bien pour tester les structures et les prises que les chaussons d'escalade, par exemple, qui seront mis à dispo par plusieurs marques de plusieurs fabricants de chaussons. Voilà. Et puis, vous parliez tout à l'heure la partie conférence, on a un cycle de conférences qui compte plus de 20 interventions, des sujets divers, des tables rondes, des sujets à enjeu sur le développement des salles et la pratique de l'activité en milieu naturel. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à voir, à ressentir et à vivre au salon.
Eh ben écoutez, ce salon de l'escalade, deuxième du nom, j'espère que vous aurez encore plus de monde que la première édition.
On rappelle les lieux?
Oui, c'est du 26 au 28 novembre à Lyon. Où exactement?
Alors dans un lieu qui s'appelle le Double Mixte, qui est un lieu événementiel, on va dire à taille humaine, qui est dans le campus de la DOI. Ça rappellera peut-être des souvenirs à certains étudiantes et étudiants. Voilà. Ouais.
Merci en tout cas.
Merci.
À vous. Éric Attès, directeur organisateur pour ce salon de l'escalade, je rappelle, du 26 au 28 novembre. Et c'est à Lyon dans quelques jours. Merci beaucoup. Dans un instant, Simon Velfringer avec son collègue, son compagnon de cordée, Pierre Ecfine. On va leur remettre un piolet d'or. Entre le 26 et le 29 novembre prochain à Briançon, on va parler de cette belle épopée. Ça se passe après Calogero et Centre-Ville.
Passion Montagne.
France Bleu. Comme moi je sais.
Croix-Ville et Calogero dans Passion Montagne. Vous écoutez France Bleu. Merci en ce dimanche 21 novembre. Allez, Simon Welfringer est avec nous, alpiniste, météorologue. Alors, sans Pierrick Fine, son compagnon de cordée. Bonjour à vous, Simon Welfringer.
Bonjour.
Bonjour, Simon.
On va rappeler en quelques mots, vous allez recevoir un piolet d'or entre le 26 et le 29 novembre, dans quelques jours, à Briançon, pour la première ascension de la face sud du Sanipakouch, 6952 mètres au Pakistan, sommet jusqu'à l'Or Vierge. Juste un mot, ça récompense quoi un piolet d'or pour le grand public qui ne connaît pas? Alors, ce sont les Oscars de la montagne, mais c'est quoi? C'est la face la plus dure, la plus longue, la plus haute? Non.
Non, en fait, c'est une combinaison de pas mal de paramètres. Donc déjà, faut savoir que derrière les piolets d'or, en fait, il y a un jury d'alpinistes de grand renom qui ont une très grande expérience dans tous les styles de montagne, en fait. Hein. C'est des gens qui ont fait beaucoup de voyages, beaucoup d'expéditions, d'alpinisme ou non. Et eux, en fait, ils vont suivre certains critères et décider quelle ascension ils ont envie de mettre en avant cette année. Et donc, c'est pas forcément que de la performance. Moi, ce que je retiens, en fait, des piolets d'or, parce que j'ai jamais été membre du jury, je sais pas exactement comment ça se passe.
Un peu trop jeune.
Mais ce que je retiens et ce que ça représente pour moi, en fait, c'est que c'est une combinaison entre performance et aventure, quoi. Donc, ça récompense d'un côté la technicité de la voie que tu ouvres, mais aussi l'audace et l'originalité de la montagne, quoi. Il y a un côté un peu aller à la recherche de l'aventure et des choses comme ça, je pense.
Alors, est-ce que ça a été l'aventure sur cette fameuse face du Sanipakouch, comment on dit, Sanipakouch?
Oui, Sanipakouch. Peut-être que les Pakistanais le prononceraient encore différemment, mais l'aventure, elle a commencé assez tôt finalement, parce qu'on est parti donc en septembre 2020, donc c'était il y a un an, et on était en pleine crise sanitaire, quoi, à l'époque. On commence à en sortir un peu maintenant, mais c'est vrai qu'à l'époque, partir au Pakistan, ça paraissait un peu fou. Et au final, nous, on était déjà partis au Pakistan auparavant. Moi, ça faisait déjà la troisième fois que j'allais au Pakistan, donc j'ai la chance de connaître quelques locaux qui sont hyper motivés qu'il y a des touristes qui viennent, en fait, et donc ils nous ont un peu facilité la tâche sur tout ce qui est paperasse, visa et compagnie. Et du coup, en fait, assez rapidement, en 2-3 semaines, on a réussi à organiser ce projet et à trouver un projet qui nous motivait vraiment, et surtout qui était sauvage, qui amenait ce côté aventureux qu'on recherchait. Mmh.
Alors, c'est une expédition qui a duré sur la montagne elle-même. Vous avez passé beaucoup de temps ou...
Au final, sur la montagne, on a passé 5 journées entières.
Formidable.
Donc, c'est à la fois long, pas très long. En fait, c'est des expés donc, qui durent en tout 6 semaines pour très peu de journées de grimpe, quoi. Parce que y a toute la phase en fait, d'approche jusqu'au camp de base qui prend un petit bout de temps. Où là, on va marcher, on va rien faire d'exceptionnel. Bon, on est dans un milieu incroyable, mais on fait pas d'efforts physiques démesurés ou quoi que ce soit. Ensuite, il y a toute la phase d'acclimatation, ça prend bien entre 1 à 2 semaines. Donc l'idée, c'est d'habituer son corps à l'altitude. Donc voilà, on passe des petits paliers, on essaye de pas aller trop vite et tout. Donc forcément, là, physiquement, on galère un peu, on en chie clairement. Mais l'idée, en fait, c'est que en amenant ces difficultés à ce moment-là, en fait, après, notre corps, il s'habitue vraiment à l'altitude. Et ensuite, pendant la période de grimpe et d'ascension, on n'a plus le problème. Ouais, forcément, c'est encore compliqué et tout, mais on a un peu habitué notre corps à l'altitude, quoi.
Et donc, pendant 5 jours, vous êtes dans l'isolement le plus complet. Vous êtes tous les deux. Vous avez vos petites tentes de paroi, j'imagine. Et puis, un jour arrive le sommet. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive là-haut?
Ouais, donc c'est sûr que pendant donc 4 journées de montée, 1 journée de descente, c'est un peu comme ça s'est déroulé. On a le temps de penser à plein de choses, on passe par des hauts, des bas. Je pense que au sein d'une journée, dans une phase comme ça, on pense qu'on va faire demi-tour un paquet de fois, et ouais. Ensuite on a l'émotion, ça fait vraiment les montagnes russes, quoi. Il y a des longueurs qui paraissent un peu engagées, qui vont être compliquées. Des fois on n'avance pas aussi vite qu'on aimerait, donc on est vraiment en mode des fois on va pas y arriver. En fait, si, enfin c'est un peu un ascenseur émotionnel tous les jours, quoi.
Ouais, en tout cas, ils sont bien arrivés. On continue avec vous, Simon Welfringer, alpiniste, météorologue à Grenoble d'ailleurs, hein. On salue les gars de la météo pour ce piolet d'or que l'on va vous remettre du 26 au 29 novembre du côté de Briançon. Il y aura vraiment du beau monde, hein, Jean-Michel, à Briançon. On vous retrouve après le duo Julien Doré et Eddy de Préto. Écoutez, c'est une pure merveille, ça s'appelle L'Arme Fatale.
Passion Montagne, Christophe Chardon, Jean-Michel Asselin.
France Bleu. Thank you. Sur ma bouche les arguments et les baisers. Je sais j'en ai mis du temps pour te trouver. J'ai remis les gants pour venir te toucher. Au milieu des torrents de médiocrité.
Si la pluie s'installe, viens sur mon oreiller. J'ai l'alarme fatale, mais j'ai rien oublié. Tu sais, tout est incertain et tout est dispersé. J'ai vendu mon âme avant de négocier. Oh, elle est pas belle la vie. Oh, elle est pas belle la vie. Prends-moi par la main et dis-moi si j'ai pied. Des fois que j'avale un peu de leurs idées.
La vie me fait mal avec ses coups de dés. Mourir c'est pas grave, c'est que tout le monde le fait. Oh, elle est pas belle la vie.
Si les cœurs sont sales, il faut les nettoyer.
On éteint la flamme avec de l'eau salée.
La nuit je suis grand et le jour je suis laid.
Partons bien avant que le soleil soit tombé.
Dit de Préto, vous venez peut-être de découvrir en nouveauté l'arme fatale sur France Bleu dans Passion Montagne. Continue notre entretien avec Simon Welfringer, alpiniste, météorologue, avec Pierrick Finn, je vous le rappelle, ceux qui nous rejoignent, ils ont remporté l'Oscar de l'alpinisme à un piolet d'or qui sera remis prochainement à Briançon. La première ascension de la face sud du Sanipakouch, 6952 mètres au Pakistan. Il était vierge ce sommet, c'est une face de 2500 mètres, comme ça, là, juste en face, devant le nez. Tiens, vous qui êtes météorologue, quelles conditions météo aviez-vous, Simon Welfringer, il y a presque un an maintenant?
Eh ben, du coup, faut savoir que le Pakistan à l'automne, en fait, c'est quelque chose d'assez mal réputé. Contrairement au Népal, où vraiment l'automne c'est la période idéale pour faire des expéditions d'alpinisme, au Pakistan il fait froid vachement plus tôt. Donc finalement, le mois d'octobre c'est déjà assez tard pour faire de la montagne aux alentours de 7000 au Pakistan. Et on a eu la chance d'avoir un créneau météo vraiment magnifique pendant les 5 jours d'ascension. Mais faut quand même noter que les températures étaient nettement plus faibles que ce à quoi on s'attendait, et de mon expérience que j'ai eu des expéditions précédentes au Népal. Et ouais, la nuit, ça avançait les moins 20, moins 30 au plus froid, quoi. Donc autant la journée, on avait le temps de se réchauffer, mais dès que le soleil partait, ça devenait quand même assez compliqué, quoi.
Simon Welfringer, vous avez 27 ans. Qu'est-ce que vous cherchez quand vous faites de l'alpinisme à ce niveau-là?
Et ben, du coup, avec Pierrick, on a un peu la même vision des choses quand on part en expé. C'est une combinaison un peu de deux choses. Il y a le côté aventureux. On a la recherche d'un endroit où on va être tout seul, découvrir un itinéraire vierge. Donc, juste pour corriger, en fait, le sommet n'était pas vierge. Il avait été fait une fois. C'est la face sud qui était vierge, en fait. Du coup, voilà, toute petite précision. Et avec Pierrick, ouais, là-dessus, on est assez d'accord que ce qu'on vient chercher, c'est l'ouverture d'un itinéraire sauvage, en fait. Il y a le côté performance, un petit peu, mais sur cette face, c'est surtout le côté sauvage qu'on a cherché. C'est vraiment une muraille de 2500 mètres, pas forcément hyper technique, hein. Les longueurs les plus dures, là, c'était du M4, M4+, en mix, donc rien d'extrême par rapport à ce qu'on fait dans les Alpes, par exemple. Mais vraiment, ce qui différenciait, c'est l'isolement total qu'on a dans cette région du Pakistan, et le fait que personne ne soit jamais allé au pied, finalement. C'est ça qui est un peu excitant, aussi.
Donc, l'incertitude, ça fait partie du jeu.
Bah ouais, complètement. Donc sur ces expés comme ça, il y a une part énorme de chance. À la fois la chance sur la météo, donc faut avoir un créneau d'au moins 5 jours si on veut gravir des faces aussi longues. Et il y a aussi les conditions, quoi. Donc c'est une face essentiellement en neige, donc on attendait des conditions de neige assez intéressantes et aussi assez safe, quoi. Enfin, que ce soit pas dangereux pour qu'on puisse mener à bien notre ascension. Voilà.
Alors évidemment, le Piolet d'Or va vous ouvrir peut-être des portes, je l'espère. Est-ce que vous avez déjà des projets?
Des projets, on en a plein la tête tous les deux. Après, là, on vient de rentrer, en fait. Ouais. On n'était pas ensemble, mais on vient de rentrer d'une expédition au Népal, chacun de notre côté. Donc là, on est surtout en mode repos et en train de récupérer un petit peu. Et ensuite, oui, des projets, on en a. On est, on a 27 ans, on a quand même assez jeune. Finalement, on n'a pas tant d'expérience que ça dans les expéditions himalayennes ou ailleurs. Moi, cet été, j'ai découvert un autre style d'expédition. Je suis allé au Groenland en combinant kayak et escalade. Mmh. Et du coup, un truc totalement différent de l'altitude, mais avec toujours ce côté aventure et un peu isolement qui m'intéresse vraiment, et peut-être qu'à l'avenir je me pencherai également vers ce genre d'expédition, quoi.
On vous le souhaite. Ouais. Juste, vous viendrez nous raconter.
Un mot en 15 secondes avant de se quitter, Simon Velfringer, vous êtes météorologue. Quel hiver allons-nous avoir en France, en Savoie et en Isère?
Alors là, je vais avoir du mal à vous répondre précisément. J'étais pas trop présent à mon travail ces derniers temps. Mais de ce qu'on me dit à mon oreille, je crois que la semaine prochaine, on devrait commencer à voir la neige autour de nos montagnes grenobloises.
Très bien. Merci à vous, super. En tout cas, Simon Velfringer. Du 26 au 29 novembre à Briançon, belle fête de la montagne avec ses piolets.
L'Assemblée générale du syndicat des guides.
C'est ça, ouais, juste après l'AG des guides. Et, oui. Ouais, juste un mot pour parler juste des piolets d'or dans la globalité. Moi, je trouve ça génial comme événement. Pour moi, c'est surtout une grande fête de l'alpinisme. Je veux dire, toute l'année, on voyage dans les quatre coins du monde. Et donc, c'est un vrai moyen de tous se réunir et de parler de montagne. Et donc,
c'est
un bel événement, quoi.
On n'oublie pas Pierre Récompense. On n'oublie pas Pierrick Fine aussi, bien sûr, et bien évidemment, avec
que l'on salue.
En style alpin, s'il vous plaît. On développera ce qu'est le style alpin une prochaine fois. Merci à vous, Simon.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Dans un instant, Mathias Virilli, Terre de Montagne. Rendez-vous en partenariat avec Montagne Magazine. On reviendra avec Mathias sur le lourd bilan des morts en avalanche de la saison passée en France.
La passion de la montagne se partage sur France Bleu.
I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis sometimes when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head, and I am feeling a little peculiar. Into a
What's going on? Voici les Four Non Blondes sur France Bleu dans Passion Montagne. Et voici le rendez-vous aux côtés de Montagne Magazine. Tout de suite, en ce dimanche. Merci à vous d'être avec nous. Terre de montagne à présent dans Passion Montagne, aux côtés aujourd'hui de Mathias Virilli. Mathias est rédacteur en chef de Montagne Magazine. Bonjour à vous Mathias.
Bonjour.
Nous faisons un triste bilan avec vous aujourd'hui puisqu'il s'agit du bilan avalanche de la saison 2020-2021.
Et oui, c'est toujours bien de commencer par regarder dans le rétroviseur avant de s'engager dans la saison de ski de rando. D'autant plus que l'année dernière a été une saison particulièrement meurtrière avec 40 décès. C'est vraiment clairement au-dessus de la moyenne qu'on a constaté sur les dernières décennies.
Ça a été dû à la fermeture peut-être des remontées mécaniques?
Oui, tout à fait. Il y a effectivement eu un effet un peu Covid avec la fermeture des remontées, l'engouement pour le ski de rando. Mais il faut aussi voir que les avalanches concernent avant tout les pratiquants assidus et pas tellement les néophytes. Et c'est là où forcément on a des variations entre les années qui sont très fortes parce que très simplement l'état du manteau neigeux varie beaucoup entre les différentes saisons. C'est vrai que l'hiver passé on a eu un manteau neigeux particulièrement instable avec des couches fragiles persistantes notamment en janvier. On a eu ensuite la couche du sable du Sahara qui n'a pas fait du bien non plus à la stabilité du manteau neigeux. Et enfin j'ai envie de dire un mois de mai particulièrement dramatique avec pas moins de 16 décès. Ce qui est énorme pour cette période de l'année.
Est-ce que vous conseillez, Mathias Virilli, à ceux et celles qui font du ski de randonnée depuis un an, depuis 10 ans, depuis 30 ans, de faire des stages?
Il faut savoir que le bilan qui est dressé des avalanches annuellement, qui sont recensées, ce travail est effectué par l'ANENA, l'Association Nationale d'Études de la Neige et des Avalanches, qui est une association d'utilité publique et qui propose des formations. Et dans leur bilan, ils soulignent bien deux choses. D'une part, le fait que pas mal de victimes partent seules. Voilà, donc ça c'est un premier élément. Et le deuxième, c'est aussi que pas mal encore aujourd'hui sont très peu équipés, voire pas du tout, ou mal équipés, ou savent pas se servir de leur équipement. Et donc auquel cas, c'est vrai que pour tous les fabricants, quels qu'ils soient, c'est bien d'aller se former ou d'aller se recycler, parce que même si on est formé, une petite piqûre de rappel ne fait jamais de mal. Et donc l'ANENA est un des acteurs centraux de cette formation au secours en avalanche en France.
Oui, vous pouvez faire ça sur une journée, sur une demi-journée. Hein.
Sur un week-end aussi.
Une piqûre de rappel, ça peut faire du bien juste avant l'hiver qui arrive, et pouvoir porter secours à son compagnon de cordée.
Tout à fait.
Son compagnon de ski de rando, en tout cas, pour éviter le pire au maximum. Merci pour ces très bons conseils, Mathias Virilli, et à très bientôt sur France Bleu.
Merci et bonne saison de ski à tous.
Quand c'est signé France Bleu, c'est vous qui en parlez le mieux.
Le concert, on a vibré avec, on a sauté avec, c'était magique.
Merci France Bleu.
Et demandez le programme, s'il vous plaît, de ce Passion Montagne. Dans un instant, Jean-Michel Asselin et ses conseils. La saturation en oxygène, comment la mesurer et à quoi ça sert? Et puis le coup de fil, nous le passerons à une femme aux multiples casquettes. Elle s'appelle Valérie Maumont, meucheuse depuis 15 ans avec ses 14 chiens, mais aussi chef d'entreprise en Isère. Portrait donc à découvrir, ça se passera entre autres après Vianney.
Passion Montagne, France Bleu.
Silence, offense, y a des torrents
dans les rues de nos enfances. Mais ça ne se voit pas. Tarder, puis parler, casser les murs des prisons qu'on se fait. S'évader vers soi. Improviser, savoir tenir. Est-on jamais préparé au pire? Le jour d'après, fleurir. Je m'en remets à nos lendemains. On renaît dans nos lendemains. Tu vois, quand vient la peine, le temps l'éteint. Je m'en remets à nos lendemains.
Vianney sur France Bleu. Passion Montagne et le conseil de Jean-Michel Asselin ce dimanche. Alors, vous allez nous parler de la saturation en oxygène, Jean-Michel. Comment la mesurer et à quoi ça sert de la connaître, sa saturation à l'oxygène?
Alors, la saturation en oxygène, on la mesure avec un appareil qui s'appelle un oxymètre ou un saturomètre. C'est un tout petit appareil, vous voyez, qui se met au bout du doigt. C'est très démocratisé aujourd'hui.
Ça, on en trouve un peu partout.
Ça coûte pas cher. Il y a même des montres qui vous donnent la saturation en oxygène. Je sais pas si ça marche très bien. Alors, il faut savoir que la saturation en oxygène, c'est juste un indicateur. Ça dit exactement quel est le taux d'oxygène contenu dans les globules rouges après leur passage dans les poumons. C'est très important parce que ici, au ras de la mer, ou presque. Normalement, on est compris entre 95 et 100% le taux d'oxygène. Voilà. Quand vous êtes en dessous de 95, ça commence à pas être bien. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand vous faites des trekking ou de l'alpinisme en haute altitude, vous savez bien qu'il y a un problème de pression, que vous allez capter moins d'oxygène et donc que votre taux de saturation en oxygène va être plus bas.
Va baisser.
Eh ben oui. Ce qui explique, par exemple, que vers 5000 mètres, il est proche de 80%. Si vous étiez ici à 80%, on vous emmènerait direct à l'hôpital.
D'accord.
C'est pas le cas.
Non.
Ici, il est tranquille. Alors, il faut pas non plus être obsédé par cet indicateur. Vous savez, il y a des gens en trekking, ils prennent leur saturation quasiment toutes les heures en se disant oula, c'est bon, oula, je suis pas bon, ou ils comparent les uns avec les autres. Non, c'est pas un concours. Il faut tenir compte de d'autres éléments que ça. C'est un indicateur d'un état physiologique, mais ça n'est que ça. Il peut arriver qu'on a un très mauvais taux de saturation, puis en fait, en se reposant un petit peu, en ayant moins de stress, en ayant plus chaud, et ben le taux va remonter.
D'accord.
Donc voilà. Alors encore une fois, soyez vigilants. Pour augmenter l'oxygène, bah, il n'y a pas 36 solutions. Hein.
C'est en prendre.
C'est en prendre, ou alors redescendre, ou se mettre dans un caisson hyperbare.
D'accord, très bien. C'est pour ça que la majeure partie des alpinistes qui vont à l'Everest le font sous oxygène.
Et bah, c'est pour ça qu'on utilise des bouteilles d'oxygène.
Merci Jean-Michel pour le conseil et puis cette saturation que vous pouvez mesurer avec des appareils en vente dans le commerce. Dans un instant, tiens, coup de fil et un portrait, on va découvrir une mecheuse. Mecheuse, allez. Même si le mot n'existe pas, crois-moi, nous on l'invente. Depuis 15 ans, elle pratique, elle a des podiums en Coupe du Monde, attention. Hein. C'est une iséroise, elle s'appelle Valérie Momont, 14 chiens, mais aussi chef d'entreprise. La découverte, c'est dans 3 minutes après Lewis Capaldi.
Retrouvez Passion Montagne sur FranceBleu.fr.
I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment, I started a place. Cause now that the corner lock, here were the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. So never the right time, whenever you're cold. Went little by little by little until there was nothing at all. Our every moment, I started a play. But all I can think about is seeing that look on your face. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this wound.
C'est Lewis Capaldi.
Retrouvez Passion Montagne sur FranceBleu.fr.
Écoutez, France Bleu, c'est dimanche. S'intéresse à notre belle montagne qu'on aime. Et parfois, dans notre belle montagne qu'on aime, on croise des mecheurs et des mecheuses. Alors, on invente le mot parce qu'il n'y a pas de féminin, paraît-il, à mecheur.
Allons-y.
Allez, elle est mecheuse. Valérie Momont, bonjour.
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 Vous êtes iséroise, Valérie, femme aux multiples casquettes, depuis près de 15 ans maintenant, et avec vos chiens, alors je crois qu'il y en a 14, eh bien, vous pratiquez cette discipline. Ça vous emmène sur des podiums de Coupe du Monde, donc vous la pratiquez plutôt bien, cette discipline. Comment est-ce qu'on lâche presque tout, j'ai envie de dire, pour se mettre comme cela à faire du chien de traîneau?
En fait, on rencontre un animal, on tombe amoureuse et voilà, et on en a un, deux, trois, et on en fait naître et puis on est pris par la passion de la montagne, voilà, c'est sûr, et puis aussi de ces chiens qui sont super et puis du sport, donc c'est vraiment une rencontre incroyable avec un animal et je regrette absolument pas d'avoir tout lâché pour vraiment me consacrer à cette passion aujourd'hui.
Et du coup, faut quitter son petit appartement cosy pour trouver un endroit où mettre 14 chiens.
Non, j'ai jamais été dans un appartement cosy.
Ah bon.
Non. Après, les chiens viennent, vivent à la maison et puis meurent. Donc, on en a jamais eu autant. Mais c'est vrai que on en a un, deux, trois, et puis on se rend compte que ils ont fait beaucoup de ski. J'ai mis la glisse, d'évoluer dans un univers de montagne. Je suis originaire de la vallée du Grésivaudan, en fait. Donc, j'ai toujours été sur les pentes de Belledonne depuis toute petite. Donc, quand j'ai testé le traîneau, je me suis dit, non, mais c'est super, c'est exactement ce que je veux faire, quoi. Je partage un moment super de sport avec mes chiens et je suis dans un univers de montagne que j'adore. Donc, c'était écrit.
Et comment vous faites alors? Parce que les chiens de traîneau, on imagine qu'ils aiment beaucoup la neige, mais elle n'est pas toujours là, l'été, etc. Alors, ils s'embêtent, ils ont trop chaud? Qu'est-ce qui se passe?
Non, ils s'adaptent. En fait, on démarre nos saisons de chiens au mois de septembre, on démarre nos entraînements chaque année en septembre, et de septembre à décembre, c'est vrai qu'on n'a pas de neige, donc on les entraîne sur les hauts de Belledonne avec un kart, avec des roues ou avec un quad. Donc voilà, on va arpenter les sentiers de montagne pour pouvoir cumuler les kilomètres et on les entraîne comme des sportifs de haut niveau, au niveau foncier, en faisant des entraînements un peu plus rapides, du fractionné. Donc on va s'entraîner comme ça jusqu'au mois de décembre. Et ensuite, quand la neige arrive, l'année dernière, on a eu pas mal de chance justement parce qu'on a eu un bel hiver, on va pouvoir troquer le quad au traîneau.
Oui, Valérie Maumont, oui. Où pourrons-nous vous voir dans les prochains mois en compète?
Vous pouvez me voir quasiment tous les week-ends sur Champs-Rousse, puisque j'ai la chance de pouvoir m'entraîner sur la station de Champs-Rousse le soir.
Oui.
Donc c'est vrai qu'on est souvent sur le domaine de l'Arcelle le soir au niveau de nos entraînements.
Oui.
Et puis Champs-Rousse organise le départ d'une course que j'adore, qui a lieu en Isère cette année, donc sur Champs-Rousse, et puis ensuite en Savoie, notamment en Haute-Maurienne, donc qui s'appelle la Lécarode, au mois de mars, à partir de la mi-mars. Voilà, et puis ensuite, on va faire un petit tour par les Pyrénées début février.
D'accord.
Et puis certainement par le Vercors entre-temps.
Oui. Dernière chose en 30 secondes, vous êtes une chef d'entreprise également, puisque vous avez développé quoi, de l'alimentation pour les animaux, c'est ça?
Non, j'ai développé une gamme de compléments alimentaires et de produits de soins pour les animaux de compagnie. Donc en fait, ça va du complément pour la digestion, pour les articulations, l'arthrose, le stress, jusqu'au baume réparateur, aux pommades, aux gels de massage, etc. pour les animaux.
Une petite question encore, quel est le nom de votre chien préféré?
Ah, mon premier chien, le premier marque toujours, il est mort maintenant, il s'appelait Pearl. Ça a été un chien exceptionnel et c'est grâce ou à cause de lui que je suis tombée dans le husky sibérien. Et puis j'ai un petit chouchou qui a maintenant 12 ans, qui a pris sa retraite, qui s'appelle Storm et qui est toujours avec moi au bureau à l'entreprise.
D'accord.
Bon, bonjour à lui.
Valérie Maumont, qu'on peut voir donc sur le plateau de l'Arcelle, s'entraîner, qu'on verra à travers les Alpes, que ce soit en Isère, en Savoie, en Haute-Savoie, et en Coupe du Monde, on l'espère aussi, avec vos chiens. Merci Valérie Maumont, c'est sympa d'avoir fait connaissance avec une meucheuse. À bientôt.
Merci à vous. Au revoir.
Et bonne journée. Merci beaucoup en tout cas. Alors Jean-Michel, on y va, je crois que vous voulez rendre un hommage pour terminer l'émission. parce que c'est quelqu'un de la montagne qui a compté pour finir.
Oui, je voulais saluer vraiment Pierre Le Sueur qui nous a quittés à 94 ans. Son frère Henri nous avait quittés déjà. Et faut savoir que dans les années 50, c'était l'équipe des Parisiens, c'était l'équipe des prolos. Pierre Le Sueur était tout simplement ajusteur, comme son père. Henri était chaudronnier. Et avec des gens comme Robert Parago, qui lui réparait les machines à écrire de la Sécurité sociale, c'est des gens qui ont fait des choses fabuleuses. Alors, ils se sont entraînés, bien sûr, à Fontainebleau, sur ces rochers. Vous savez ce que disait le guide Armand Charlet, des rochers de Blot?
Non.
Il disait, oh, c'est des cailloux pour frotter les casseroles. Très bien. Eh bien, figurez-vous qu'en s'entraînant sur ces cailloux pour frotter les casseroles, Parago, Berardini, Edmond Denis et les frères Le Sueur ont été parmi les plus étonnant ouvreur de voie dans la face nord des Drues, dans la face ouest. On sait par exemple que les frères Le Sueur avec Edmond Denis et Robert Parago ont répété la Walker dans les Grandes Jorasses. Et trois jours après, les deux frangins, les deux Le Sueur, ouvraient une nouvelle voie dans la face nord du Grand Dru. Vous voyez donc des gens extraordinaires, tout simples.
Les Parisiens quoi.
Des Parisiens, des prolos. Des types merveilleux.
Et qui sont devenus de grands alpinistes.
Et, ouais.
Et donc disparition.
Disparition, là, bah 94 ans, ouais. Jolie mort. Il faut savoir que Pierre Le Sueur avait été un des héros aussi de la Concagua, de la face sud de la Concagua, avec Parago et Berardini, qu'il y avait laissé pas mal de doigts et que, bien sûr, ça avait définitivement mis un terme à son projet d'une carrière de guide.
Ouais, et Jean-Michel Asselin est intarissable sur l'histoire de l'alpinisme et c'est ce qu'on aime avec vous, Jean-Michel. On vous souhaite un beau dimanche. Une belle journée.
Bonne montagne à tous.
De bonnes montagnes. Et puis rendez-vous dimanche prochain, bien sûr. On va se quitter avec Louane. C'est une vraie tornade. Merci, bon dimanche et à la semaine prochaine.
Retrouvez Passion Montagne sur FranceBleu.fr.
Petite, te laisse pas enfermer, t'as toujours su rêver. Petite, je te promets, c'est pas ta faute. Ce monde que t'as imaginé ne saura pas te sauver. Petite, je te promets, t'en verras d'autres. Tu rêves de partir, pouvoir choisir, oublier ta peine. 100 fois tu vas tomber, 100 fois croire que c'est terminé, 100 fois tu vas te relever quand même. Que tu es, les ventes t'emmènent du mauvais côté. Surtout n'oublie pas en toi la tornade. Et quand t'as besoin de crier, que tu ne vois plus ce qui pourrait changer. Surtout n'oublie pas en toi la tornade. Et quand tu sais plus qui tu es, les ventes t'emmènent du mauvais côté. Surtout n'oublie pas en toi la tornade. Et quand t'as besoin de crier, que tu ne vois plus ce qui pourrait changer. Surtout t'as grandi, tu te sens pas comme les autres. Tu commences à sortir la nuit, à faire ce qu'on t'interdit. Y'a des étapes qu'il faut pas que tu sautes. Tu rêves de partir, pouvoir choisir, oublier ta peine. 100 fois tu vas tomber, 100 fois croire que c'est terminé, 100 fois tu vas te relever quand même.